À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, un bienheureux. Le bienheureux Giovanni Dominici, ou Jean Dominici, comme on l'appelle généralement, car il a beaucoup marqué l'histoire. Il est mort en 1419, donc on peut dire approximativement 100 ans avant la réforme protestante. Or, ce dominicain, qui est devenu cardinal, tellement il était remarquable, a été un réformateur vraiment courageux, particulièrement dans les couvents dominicains du nord de l'Italie, mais un peu partout en Italie. Il était appuyé par son général, le bienheureux Raymond de Capoue. Jean Dominici, comme on dit dans un important dictionnaire catholique, était cardinal de Ragusa et c'est l'un des hommes d'Église les plus remarquables de l'époque du grand schisme. Qu'est-ce que c'est que cette époque du grand schisme? Certains d'entre vous pourraient me demander. Je pense bien que vous êtes tous au courant, mais enfin, le grand schisme, ou ce qu'on appelle aussi le schisme d'Occident, c'est ce schisme qui, pendant 50 ans, a divisé l'Église catholique. Pendant 50 ans, oui, de 1378 à 1429. Ça donnait lieu à l'élection de plusieurs papes, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Plusieurs papes qui étaient élus en même temps, il y en avait deux papes, des fois trois. Et le bienheureux Jean Dominici a contribué très, très activement à l'extinction de ce schisme. Il est né à Florence, dans cette belle ville de Florence, en 1357. Il était de condition très humble. Souvent, c'est dans l'Église, on voit même des papes qui portaient leurs chaussures à la main, comme Pie X, le cardinal Sarto, le jeune Sarto, qui portait les chaussures à sa main pour aller à l'école, pour ne pas les user, tellement il était pauvre. Alors, il est de condition très humble, ce Jean Dominici. Il s'appelle, de son nom de famille, en vérité, Banchini. Ou Bacchini. Mais selon toute vraisemblance, le nom de Dominici qu'il prend lui vient de son père, à une époque où on prenait souvent le nom de son père, le prénom de son père. C'était un tisseur de soie, lui, qui s'appelait Domenico. Et de là vient son nom à ce futur cardinal de Jean Dominici. Il y en a un, Jean Dominici, à Montréal. Il habite la rue Parthenay. Chose surprenante, j'ai failli lui téléphoner pour lui dire d'écouter cette émission. Il reçoit, ce Jean Dominici, une éducation profondément chrétienne de sa mère, qui s'appelle Paula, et qui va d'ailleurs entrer un jour dans un des monastères qu'il aura réformé. Parce qu'elle devient veuve très jeune, dès avant sa naissance à lui, à Jean Dominici, elle perd déjà son mari. Et 14 ans plus tard, ce petit garçon veut entrer chez les Dominicains, déjà. On le trouve trop jeune. On craint aussi que, comme il bégaye, ce bégaiement dont il est affligé va le rendre incapable de faire un frère prêcheur. Les Dominicains sont des frères prêcheurs qui doivent avoir une bonne élocution pour pouvoir prêcher. Particulièrement à cette époque où il n'y a aucun moyen de porter la voix, si ce n'est dans certaines chaires, un espèce de toit, de plafond, là où ils prêchent pour porter la voix, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Sa mère s'oppose à ce projet. Elle l'envoie passer 2 ans à Venise, tout à fait dans le nord de l'Italie, comme vous savez, à droite, là, pour y apprendre le commerce, mais ce tout jeune homme qui a 15-16 ans persiste à vouloir devenir dominicain. Il a ça au cœur. Et de retour à Florence, il parvient, à force d'insister auprès de sa mère, à force d'insister particulièrement auprès des dominicains, à se faire admettre par le prieur, le supérieur, si vous voulez, le prieur de Santa Maria Novella, un couvent très important, de Florence. Il entre en 1374, donc à 17 ans. Ses aptitudes sont exceptionnelles. Elles sont jointes aussi à son défaut de langue, malheureusement. Et tout ça fait qu'on le garde pour un ministère plus intime au sein de l'ordre, parce que à cause de son bégaiement. Après un noviciat fervent où il se distingue par son esprit d'obéissance, c'est-à-dire, j'ajoute que c'est une vertu sur laquelle il va insister énormément plus tard comme directeur et réformateur des couvents dominicains et de dominicaines, et même de bénédictines. Ses supérieurs l'envoient donc à Paris pour achever sa formation. Vous savez que souvent, les dominicains sont très instruits. On le retrouve en 1382, donc 8 ans après son entrée, on le retrouve à Pise, là où il y a la fameuse tour de Pise que vous connaissez. Puis, il est convaincu de l'importance de la réforme qui a été entreprise par le général, c'est comme ça qu'on l'appelle, le général des dominicains, le bienheureux Raymond de Capoue. Le bienheureux Raymond de Capoue, vous vous en souvenez probablement, il était le confesseur de Sainte-Catherine de Sienne, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et elle a trouvé en lui, dans ce Raymond de Capoue, quelqu'un qui l'a aidé. C'était un homme aussi actif qu'éclairé, ce bienheureux Raymond de Capoue. Quant au bienheureux Jean Dominici, il entre non seulement en relation avec Catherine de Sienne, mais aussi en relation avec la bienheureuse Claire de Gambacourtis, ou si on veut Claire de Pise, qui est une bienheureuse extrêmement importante qu'on a pu appeler, imaginer, la Thérèse d'Avila de son ordre, comme notre Marie de l'Incarnation ensevelie à Québec. Et son influence sur le bienheureux Jean Dominici est très profonde, dans le sens mystique. C'est à Venise qu'il exerce d'abord son activité de réformateur, influencé par cette bienheureuse mystique et par Catherine de Sienne, et par surtout le bienheureux Raymond de Capoue. Il y arrive en 1387... Et au couvent des saints martyrs Jean et Paul, en qualité de lecteur en théologie, disons de professeur de théologie, les dominicains, on parle souvent de lecteur en théologie, il est guéri, imaginez, de son bégaiement, par qui? Par l'intercession de sainte Catherine de Sienne. Il s'adonne principalement, et avec beaucoup de succès, à la prédication maintenant. Jusqu'en 1391, il est guéri, un peu comme René Lévesque avait été guéri, croit-il, miraculeusement, vous vous souvenez, de cette espèce d'extinction de voix qu'il avait. En septembre de la même année, Raymond de Capoue, chaudement appuyé par le pape Boniface IX, bien, il rouvre à Venise l'ancien couvent de Saint-Dominique pour en faire la pépinière de la réforme. Et dans ce couvent réformé, où vraiment, non seulement on observe la règle, mais il y a un courant mystique, un courant de foi, un courant de ferveur, un courant d'authenticité dominicaine, mais les vocations y affluent. Ça rentre, c'est extraordinaire, comme d'ailleurs dans les autres couvents qu'il réformera. Dominici y remplit donc les fonctions de vicaire général. À Venise, et dans l'espace de 2 années, il réussit à restaurer l'ancienne discipline, non seulement dans les maisons de Chioggia et de Città di Castello, mais dans le couvent des saints Jean et Paul, et ses premiers résultats décident le bienheureux Raymond de Capoue, le général, à lui remettre toute l'affaire en main en étendant ses pouvoirs de vicaire général aux maisons réformées de toute l'Italie. ça survient ça en 1396. Seulement, par crainte de voir l'ordre se scinder en plusieurs observances, comme cela s'est produit chez les franciscains, vous savez que les franciscains conventuels, qui sont habillés de noir, les franciscains qu'on connaît, qui sont habillés de brun, et puis il y a les capucins aussi, puis je crois qu'il y a eu d'autres branches qui se sont éteintes, Raymond de Capou, lui, ne veut pas imposer la réforme à tous les couvents. Il les laisse faire et il laisse chacun d'eux libre de recevoir cette réforme qui suit la juridiction du bienheureux Jean Dominici. Et Jean Dominici se trouve de ce fait dans une situation difficile. Comment exercer son mandat de réformateur si son mandat est subordonné à l'acceptation des intéressés, là, des dominicains, quoi? Et là survient la mort du bienheureux Raymond de Capou en 1399. Et son remplacement comme général par le frère Thomas de Fermeaux, qui ne confirme pas Dominici dans ses fonctions de vicaire général. Ça rend les choses difficiles. Ça rend sa position plus intenable encore. Et sans doute que le pape Boniface IX, d'accord, lui confirme ses pleins pouvoirs en vertu de sa propre autorité comme pape, mais cela revient presque à opposer deux généraux, le général des Dominicains puis le pape, l'un à l'autre. Et l'on imagine bien que les membres de l'ordre, les Dominicains hostiles à la réforme, n'ont pas eu trop de peine à faire annuler cette nomination faite par le pape, à laquelle le véritable général était demeuré étranger. C'est arrivé en 1400. C'est comme ça que finalement l'entreprise commencée par le bienheureux Raymond de Capou pour réformer tous les Dominicains est arrêtée durant un certain moment. Mais le frère Dominici, quand même, est maintenu comme provincial à la tête des cloîtres réformés, ceux-là. Puis il peut poursuivre ce travail et même l'augmenter. Puis, il réussit à susciter cette réforme qui va, avec le temps, travailler, pour ainsi dire, toute la masse, c'est-à-dire provoquer le renouvellement de l'ordre tout entier des Dominicains. Une autre œuvre qui marque le passage du bienheureux Jean Dominici à Venise, c'est la fondation du couvent des Dominicaines du Corpus Christi, en 1395, dans lequel sa propre mère, comme je vous ai laissé entendre tout à l'heure, cette pieuse Paula, veuve avant même de mettre au monde son fils, ben elle vient prendre l'habit. Et puis, il garde sa mère jusqu'à sa mort dans son couvent, puis il s'occupe de même de sa direction spirituelle. La plupart des lettres, d'ailleurs, que nous avons conservées de lui, j'en ai ici, sont adressées aux religieuses de ce monastère, puis elles sont écrites en latin, ce qui prouve bien que ces femmes, ces moniales dominicaines, étaient très familières avec la langue de l'Église. Et ces lettres comptent parmi les pièces les plus importantes dont on doit tenir compte pour juger sa doctrine ascétique qui pénètre d'un bout à l'autre cette pensée dominante, qui est quoi? Qui est l'effort vers la perfection par l'imitation la plus étroite de Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ. Le synode devrait nous dire d'imiter Jésus-Christ. Détachement absolu du monde et de soi-même jusqu'à la plus profonde humilité pour ces moniales. Accomplissement exact des prescriptions de la règle dominicaine. Amour actif, dit Jean Dominici, et effectif aussi de Dieu et du prochain, soutenu par la continuelle contemplation du modèle, qui est qui? Qui est Jésus, évidemment. Ardent désir de l'union avec le Christ, si tels sont, aux yeux du bienheureux Jean Dominici, les fondements de toute vie parfaite. Alors, le frère Jean Dominici, dominicain, pour bien réformer ses monastères, particulièrement de moniales, il exerce un zèle qui, pour faire transcrire des manuscrits par ses religieuses, il fait même transcrire des belles miniatures. Vous avez déjà vu des miniatures de cette époque? C'est tellement beau, hein? Il y a même souvent de la feuille d'or. C'est superbe. Et la carrière du frère Dominici à Venise. Je dis toujours frères parce que les dominicains, comme les franciscains d'ailleurs en France maintenant, se font tous appeler frères. Et je crois que c'est une excellente idée, ça commence ici. Ce sont des frères prêcheurs, ce sont des frères mineurs. Pourquoi les appeler pères, hein? Donc, la carrière du frère Dominici à Venise prend fin en 1399, donc dans les conditions suivantes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'état lamentable où le grand schisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait plusieurs papes, avait jeté la chrétienté. Il y avait des pestes aussi. Ça tuait surtout les jeunes moines qui, ils entraient, puis au bout de 6 mois, 8 mois, ils étaient déjà morts. Des famines aussi, qui étaient renouvelées, ça n'arrêtait pas. Il pleuvait presque jamais. Et aussi la crainte des Turcs, les musulmans. Toujours ces Turcs qui cherchaient à envahir les pays chrétiens pour les transformer comme ils ont fait avec les Albanais. Et les transformer en faisant des musulmans, évidemment. Et tout ça, ça avait déterminé en Provence d'abord, donc dans le sud de la France, puis de là dans toute la péninsule de l'Italie, cet extraordinaire mouvement religieux qui a pris corps, comment dans des processions qu'on appelait les processions des pénitents blancs. Ben, ils criaient vers Dieu, évidemment, avec toutes les difficultés qu'ils avaient, le schisme, les pestes, les famines, la peur des Turcs. Alors, ils avaient des processions de pénitents blancs auxquelles prenaient part plusieurs jours durant des villes entières, avec même les gens des environs qui venaient. Par exemple, 40 000 personnes en procession à Florence sur la fin d'avril 1399. Là. Le gouvernement de Venise y a vu, c'est une république Venise, hein, y a vu un danger public et les a interdites sur son territoire. Or, Dominici, qui était là, a pris quand même l'initiative d'une de ces manifestations. Et là, alors, il est, le 27 novembre 1399, banni de la République de Venise pour une durée de 5 ans. À partir de 1404, 5 ans plus tard, commence son action diplomatique. Malatesta, seigneur de Rimini, le charge d'une ambassade auprès de la République de Florence puis auprès du pape. Alors, il devient de plus en plus un diplomate. Le 26 novembre 1406, 2 ans plus tard, les autorités de Florence l'envoient à Rome pour obtenir la cessation du schisme dans l'Église des papes. Il adresse aux cardinaux réunis en conclave pour élire un pape un discours pour les exhorter à l'unité de la papauté. Il faudrait un seul pape. Le nouveau pape Grégoire XII lui donne toute sa confiance. Il le nomme archevêque de Raguse en juillet 1407 et il l'envoie comme légat du pape donc, auprès de la République de Venise et de celle de Gênes, toujours dans le nord de l'Italie, pour négocier en vue de l'unité, un seul pape. Il le nomme cardinal au titre de Saint-Sixte en avril 1408. Ce qui donne évidemment occasion à ses ennemis de le calomnier en l'accusant d'ambition, parce que un réformateur est toujours calomnié, c'est inévitable. Quelqu'un qui prêche la réforme, la sainteté, l'observance, on n'aime pas ça. Hein? Regardez ce qu'on a fait à Saint-Jean-de-la-Croix, les Carmes l'ont emprisonné, ses frères Carmes l'ont emprisonné 2 ans, c'est incroyable. En janvier 1409... Le bienheureux cardinal Dominici est envoyé cette fois-là comme légat auprès de Sigismond et de Ladislas de Pologne. Alors, il devient de plus en plus important, puis il suit le pape retiré, lui, à Gaète. Vous vous souvenez peut-être de ça, pour fuir l'antipape élu à Pise, Alexandre V, auquel va succéder Jean XXIII. Saviez-vous ça? Oui, c'est un faux pape, Jean XXIII. C'est pour ça que notre pape Jean XXIII a pu reprendre ce nom. Et puis, au 20e siècle, au concile de Constance, donc, son influence au frère Jean Dominici est grande, ou au cardinal Dominici, si vous voulez. C'est à sa suggestion que Grégoire XII démissionne, puis enfin, son désir de l'unité est réalisé. Et le 11 novembre, la date magnifique, Le 11 novembre 1417, un seul pape est élu, c'est Martin V. Celui-ci lui manifeste aussitôt sa confiance en le chargeant de la difficile mission de légat auprès de l'empereur Sigismond puis du roi Venceslas de Hongrie, en vue de ramener les Hussites, c'est une église, une secte protestante, les Hussites très très anciennes, hein, d'avant la réforme protestante, essayer de ramener les Hussites au sein de l'église. J'en ai déjà rencontré des Hussites, c'était des gens merveilleux. Hein. Ça existe encore. C'est d'ailleurs un échec et le frère Jean Dominici meurt à Budapest le 10 juin 1419, puis il a été béatifié par Grégoire XVI le 9 avril 1832. Il est vraiment béatifié. Or, l'édition des œuvres de Jean Dominici, ça a commencé au début du 16e siècle. Jusqu'à nos jours, c'est pas terminé. Et il reste encore des inédits, quoi, parce qu'il y a beaucoup écrit. Sans une édition critique de l'ensemble de ses écrits intéressants et très intéressants, il est difficile de se faire une idée exacte de la pensée de ce grand cardinal réformateur et de son activité littéraire. Mais je vais vous expliquer ça, c'est très, très, très beau, c'est pour ça que je vous parle de lui. Il a écrit le Libro d'Amor di Carità, c'est-à-dire le Livre d'Amour de Charité, qui a été écrit vers 1392-94 quand il faisait ses réformes. C'est un appel à passer d'un amour trop humain à l'amour de charité. Il y a une traduction française puis une présentation des principaux textes dans la revue La Vie Dominicaine, parue dans les années 60, 66, 68. Il a publié aussi un Trattato delle Dieci Questioni, un traité des 10 questions et lettre qu'il a adressée à Madonna Bartolomea. C'est une réponse à 10 questions de cette Bartolomea sur l'union avec Dieu. Il paraît que c'est très très beau, j'ai pas pu mettre la main là-dessus. Et puis, il y a la Regola del Governo, di cura familiare, adressée à Bartolomea, une règle du gouvernement, comment prendre soin de cette famille, de ses moniales. Et Jean l'apaise dans son épreuve et il lui donne des règles de conduite aussi, pour la vie en famille. Et un ouvrage de controverse aussi, la lecture des poètes païens est-elle permise à la jeunesse? C'est très intéressant, j'aurais pu vous en parler assez longuement. Il faut procéder, répond-il, à un choix judicieux et surtout donner une solide formation chrétienne aux jeunes pour les prémunir contre la confusion des idées puis l'amollissement du cœur. Parce que quand on lit les poètes païens, ben, l'âme s'affadit, puis l'Évangile devient quelque chose d'inaccessible. C'est paru, ça, en anglais, à l'Université de Notre Dame, dans l'Indiana, aux États-Unis, en 1940. Il y a des lettres spirituelles aussi, 59 lettres, qui sont adressées pour la plupart aux sœurs du couvent de Corpus Christi, et je vous en lirai des extraits. Certaines avaient été éditées déjà. D'autres lettres publiées ou non, ne rentre pas tout à fait dans... c'est presque impubliable, certaines, mais en tous les cas, il y en a 5 qui sont parus dans la vie spirituelle, je le dis pour ceux qui vivent en communauté, qui ont la collection de la vie spirituelle, en 1931, vous pourrez les trouver là. Et finalement, il y a une chose adressée aux Dominicains. Je vous dis ça parce qu'il voulait réformer les Dominicains. Le frère Jean Dominici, qui est promoteur de la réforme et donc de la pauvreté parfaite, il expose et réfute les arguments en faveur de la propriété des Dominicains, soit individuelle, soit même commune. Il veut pas que les Dominicains soient plus riches que les Franciscains, pauvres, pauvres, pauvres. Et ce serait aller à l'encontre, dit-il, de la volonté explicite de Saint-Dominique que d'acquérir des richesses. Il est strict. La plupart des sermons de Jean Dominici sont encore inédits. Il y a d'autres inédits sur la conception de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est favorable à l'Immaculée Conception. Il a écrit ça en 1390. Il y a un beau commentaire du Magnificat aussi, ce très beau texte, un des plus beaux textes de la Bible qui est sorti de la bouche de Marie, en 1406. Des commentaires aussi du Cantique des Cantiques, dont l'un sous le titre d'Itinerarium Devotionis, ou le chemin de la prière, si vous voulez. Et ses écrits, pour la plupart en langue italienne, portent la marque d'un homme qui sait écrire, qui a de la qualité, de la culture, qui était le bienheureux Jean Domenici. C'est un artiste dans le domaine littéraire. Il était aussi en peinture. Et autour de lui, il avait rassemblé un groupe de miniaturistes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est sa doctrine spirituelle, dont je vais vous parler dans la deuxième moitié. Fantastique, sa doctrine spirituelle. Nous en sommes rendus à la doctrine spirituelle du bienheureux Jean Domenici, qui apparaît surtout, lui, comme un maître spirituel puis un directeur d'âme vraiment important. L'amour de charité est au cœur de son message. L'amour de charité. Il attribue un rôle considérable à la volonté. Mais quand même, il maintient l'importance de l'intelligence. Or, il soutenait que la volonté est plus noble que l'intellect ou l'intelligence et que la vie active est préférable à la vie contemplative. C'est un vrai dominicain. Hein? Et c'est une proposition insoutenable aux... Ah, ça, c'était les préoccupations ceux de Gallucci Salutati. Je regrette. Ça, c'est une proposition insoutenable aux yeux de Jean Domenici. Parce que pour lui, la vie contemplative est au cœur. Elle est au cœur. Parce que la volonté doit être guidée par l'intelligence. Et la volonté stérile a moins de s'unir à son mari l'intelligence, dit Jean Domenici, contre ce type qui s'opposait à lui. Dans le royaume de l'âme, dit-il, le roi et l'intelligence... La reine, la volonté, et bien plus, il dit, l'intelligence ne se trompe jamais. Dans d'autres termes, il faut avoir du discernement. Sinon, dit-il, lorsque l'intelligence suit la volonté, il faut que l'intelligence prime quand même. En fait, Jean Domenici craint ici les fâcheuses conséquences d'un volontarisme absolu. Les gens qui veulent s'en servir leur intelligence et s'en servir d'un peu de sens commun, mais nous arrivons au point le plus beau. Là. Puis dans le livre de l'amour de charité, il expose l'action des deux puissances. Écoutez, ça c'est superbe, hein? Je lis. Un assez long extrait, pas très long. Parce que dans la vie présente, dit-il, nous cheminons au moyen de la foi, et nous ne voyons que dans un miroir obscur et ténébreux, la vertu intellectuelle ne semble pas suffire par elle seule. Si elle n'est pas informée par sa petite fille, la charité. Oui, mes sœurs, la charité naît de la connaissance de Dieu, laquelle le montre tellement bon, utile et délectable, qu'il ne peut se faire que la volonté irradiée d'une telle lumière ne l'aime. En d'autres termes, quand on est éclairé par l'Esprit Saint, qu'on comprend l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de commencer à l'aimer. Il y a des gens qui sont rendus tellement loin dans cet amour de Dieu qu'ils deviennent des saints. Il ajoute, « Et d'autant plus grand est l'amour que la connaissance est plus claire, et d'une foi plus ferme et plus stable. Mais si la charité est alors si grande qu'elle se réfléchisse dans l'intelligence, elle fait que celle-ci ne peut voir autre chose que Dieu, parce qu'elle ne peut se représenter autre chose que ce qu'elle voit. Et en cela... Le susdit esprit ne peut s'attrister. Il se réjouit toujours, bien que la sensibilité souffre de chaque peine. On voit ça chez Marie de l'Incarnation, chez les saints qui se disent qu'ils sont toujours dans la joie malgré les grandes souffrances. Alors le bienheureux Jean Domenici ajoute ici, « J'ai vu un rayon de soleil réfléchi en lui-même par l'opposition d'un miroir, brûler en lui-même et allumer le feu. » Bien que son office ne soit pas de brûler, mais d'illuminer. On faisait ça quand on était petit, on prenait les miroirs, on faisait refléter le soleil, on le concentrait sur un bout de papier, pouf, le bout de papier brûlait. Ça nous amusait quand on avait 7-8 ans, c'était dangereux de mettre le feu. Hein? Et le frère Domenici ajoute, « Ainsi, dit-on, si l'intelligence frappe en la pure volonté, elle rebondit et refrappe l'acte de la volonté dans l'intelligence. Elle allume la flamme de la charité. » Et elle brûle toutes les impuissances intérieures de l'âme, les faisant comme des torches embrasées, toutes crier. Alors c'est toute l'âme qui crie, doux amour, ô Dieu amour, l'amour me fond le cœur et je ne puis vivre sans amour. Hein? Quelle passion il avait. C'est rare qu'on entend des prédicateurs nous prêcher comme ça aujourd'hui. On est plus retenu, on est plus sobre, on est plus calme, il faut être plus paisible. Hein? Faut pas passer pour des fous, quoi, mais je passe pas un peu pour un fou, je m'excuse. La volonté, c'est sûr, elle a un rôle très étendu. Il s'ensuit que la charité doit pénétrer la parole, la connaissance des mystères et de la foi, le sens des miracles, l'aumône, le martyre. Il dit aussi qu'elle suscite la volonté, les vertus apparentées, patience, bienveillance, humilité, douceur, vérité, support mutuel. Mais elle les dépasse toutes, y compris la foi et l'espérance. Parce que la charité est au cœur. Hein? S'ensuit que la charité doit pénétrer la parole. Elle doit pénétrer. Elle suscite aussi les vertus apparentées, patience, bienveillance. Elle les dépasse toutes, y compris la foi et l'espérance, la charité. Le bienheureux cardinal Jean Dominici voit bien la charité agir dans des domaines où nous ne l'attendrions pas. Notre langage, dit-il, qui est matériel et charnel, et dont le son atteint les oreilles, ne peut pas faire grand-chose. Si un ange ne porte pas les mots de cette voix à l'esprit intérieur, en réchauffant cette voix par la flamme de l'ardente charité à l'amour de Dieu. Alors, je m'explique. Il veut surtout faire saisir la pénétration puissante de la charité en tout. Il dit bien, c'est clair, cette langue angélique est parfois tellement liée à la langue du prédicateur qu'il semble que chaque mot transperce le cœur et divise l'âme avec le corps. Quand il prêchait, c'était comme ça. Il divisait l'âme avec le corps. Il transperçait le cœur. Et il dit à un moment donné, « Que cette charité soit donc votre compagne, quand vous allez à l'église et quand vous retournez à la maison. » Oh, il est brûlant. Hein? « Que cette charité vous embrase le cœur, qu'elle vous meuve la langue. » Que cette charité vous revête et vous dépouille et qu'elle persévère en tous vos sentiments et vos actes. Ça ne peut pas être plus clair, me semble. Il y a autre chose aussi. Plus surprenante, c'est son explication de l'union de l'âme et du corps. Si l'âme peut être la forme du corps, c'est grâce à la charité. Écoutez bien, ça c'est très beau. L'âme est très noble à la ressemblance de Dieu, dont l'excellence nous est incompréhensible en cette vie. Comment comprendre Dieu? Comment comprendre l'âme? L'autre partie de l'homme est la chair, si méprisable qu'on ne le peut dire ni penser. Mais je passe par-dessus parce qu'il dit trop de choses qui sont contraires à nos conceptions aujourd'hui. Bon, ces deux natures, si contraires et si distantes par soi, ne peuvent s'unir ensemble, sinon par force et violence, ou alors par un amour plus haut que l'amour naturel. Et de cet amour naturel, nous avons dit qu'il naît de la ressemblance. Il y a donc, dit-il, et c'est très beau, ça, un merveilleux amour qui lie ces deux natures contraires et distantes, l'âme et le corps, en une unité substantielle d'amour, moyennant laquelle l'homme est homme. Alors l'homme n'est homme que par la charité, que par l'amour. On comprend bien alors que la charité est d'une valeur supérieure à tout le créé. Pour lui, c'est le cœur de toute la création. On soulignera donc le néant de la créature devant Dieu. Et le frère Jean Dominici conseille fréquemment de remonter à Dieu à partir de la beauté des créatures. Mais Dieu a une valeur tellement élevée au-dessus d'elle qu'il ne faut s'attacher qu'à lui seul, finalement. On apprécie les créatures, on apprécie tout ce qu'il y a là, mais on remonte toujours à Dieu. Ainsi, plus les dons sont élevés, plus ils peuvent être dits rien. S'ils ne participent pas à l'être de Dieu par la charité, ils ne deviennent beaux en raison de la charité. Je le cite ici. Seul Dieu nous maintient et nous maintient par la charité, et notre charité demeure liée à la sienne. Et puisque cela suffit, nous ne pouvons manquer. Si donc de notre côté la charité manque, pour autant qu'elle manque, nous ne sommes rien. Mais malheureusement, Jean Dominici en vient à dévaloriser les connaissances naturelles, puis s'ingénie à trouver des motifs de déprécier les sciences. Là, il faut pas le suivre. Les certitudes de la raison reposent sur les observations, dit-il, des sens, sur les témoignages des hommes. Or, ceux-ci sont sujets à caution, dit-il. Il dit même, la philosophie n'est pas proprement une science, mais une opinion. Cela est certain, puisqu'elle procède de raisons douteuses et de parleurs suspects, étant donné que l'un dit le contraire de l'autre. Bon, c'est un jugement un peu trop catégorique à mon goût. Mais il y a en partie raison. Mais sur la nature de la charité, Jean Dominici demeure hésitant, puis il mentionne la controverse qui a mis aux prises les partisans de Pierre Lombard, puis les théologiens modernes parmi lesquels il range saint Thomas. De toute façon, il dit, nous répondons au creux de cette controverse, il dit, c'est pas là l'avis du bienheureux Dominici, puis c'est très beau, nous répondons que c'est Dieu qui réchauffe l'esprit illuminé sans intermédiaire d'aucune créature. Cette chaleur qui vient de Dieu change l'esprit humain en le réchauffant, mais ne se change pas elle-même. Ainsi, l'acte ou l'habitus de la charité la reçoit. Et cet acte ou habitus est un accident de la charité, et c'est pourquoi les théologiens sacrés disent bien quand ils déclarent que la charité est un accident mental, mais la charité qui engendre un tel acte ou habitus, considéré en elle-même, est Dieu. En somme, la charité, c'est Dieu. C'est lui, il est amour. Et là, nous entrons dans le plus beau. Il dit, le but auquel chemine toute sa pensée, c'est l'union avec Dieu. C'est à cela que conduit l'amour de charité. Encore faut-il chercher activement le Christ, pour chercher le Christ. Si le synode nous fait chercher le Christ, nous trouverons une église toute renouvelée. Comment trouver le Christ? Mais on le trouve dans l'Écriture. Il dit, appliquez-vous à l'enseignement du Christ et ne vous lassez pas de lire la Bible tant et tant que vous pouvez. Ce sont les livres saints. Ça, c'est 100 ans avant Luther. Il dit aussi qu'on le trouve, le Christ, dans l'Eucharistie, dans la création, dans les créatures et dans la prière. Il faut surtout accueillir la volonté de Dieu, ce qui implique, en contrepartie, la lutte contre la volonté propre, la volonté égoïste. L'essentiel est ainsi sauvegardé, et le frère Jean Dominici peut alors rassurer ses correspondantes, les sœurs, Bartholoméa, dont je vous ai parlé, les sœurs de Corpus Christi aussi, qui sont avides d'absolu, ces femmes. Mais il dit bien que l'union n'est jamais parfaite ici-bas, parce que nous avons toujours des passions qui sont là, qui demeurent. On ne peut se dispenser alors de lutter, il faut lutter. D'où il faut un peu de haine de soi-même. Beaucoup, peut-être. Il reste toujours la possibilité de s'égarer aussi. Il faut faire attention, il faut de bons guides. Il faut lire l'Écriture sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, mais avec des guides. Et le désir de l'union doit s'accompagner aussi de patience. C'est long. On ne peut éviter les tribulations, dit-il. Le meilleur est de ne rien demander, ne désirer ni les larmes, ni les goûts, ni les apparitions, puis tout ça, mais dire que ta volonté soit faite, fiat, comme la Sainte Vierge. Hein? Et à l'exemple de Saint Martin ou de Saint Paul, accepter de demeurer encore ici-bas plutôt que de rejoindre le Seigneur. Hein? Faut pas aspirer outre mesure à la mort. C'est aussi l'imperfection de l'union qui explique qu'on se connaisse mal. Si on était vraiment unis au Christ, on se connaîtrait peut-être mieux. Aussi, ne faut-il pas chercher à savoir exactement quel est son propre état, mais plutôt à connaître, dit-il, la volonté de Dieu. Et on pourrait peut-être se demander quel est le caractère et l'influence du bienheureux Jean Dominici. Or, par sa formation théologique, Jean Dominici appartient au Moyen-Âge. Il connaît saint Thomas, il s'inspire de saint Augustin, de saint Bernard, il s'inspire de saint Bonaventure, mais il participe aussi aux nouvelles aspirations humanistes, et sa pensée demeure assez variée. D'autre part, elle est nourrie de la Bible. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, c'est bien avant Luther. Il est né en 1355 et Luther en 1433. Alors, ils ont 125 ans qui les séparent. Et on perçoit en lui une vraie expérience spirituelle à partir de l'Eucharistie et de la Bible. Lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, on le sent vibrer. Et son enthousiasme est communicatif. Il parle pas sur un ton terne. Il apparaît comme un contemplatif et un apôtre zélé, plus que comme un spéculatif. Et ce qu'on a de lui, ce sont uniquement des écrits de circonstances, mais son caractère apparaît très ferme. Une fois donné à l'œuvre de la restauration, puis de la réforme, puis de la restauration de la ferveur primitive de son ordre, il la poursuit inlassablement malgré les obstacles. Et le bienheureux Raymond de Capus, dont je vous ai parlé au début, n'a pas de meilleur collaborateur. Et le grand mouvement réformateur qui conquiert peu à peu les couvents dominicains d'Italie et qui se développe par la suite notamment avec Savonarole et jusqu'en Espagne, lui doit le meilleur de ses réalisations, puis une pléiade de saints qui sont sortis de ses monastères reformés, de ses couvents transformés, des saints, des bienheureux comme le bienheureux Angelico, Frangelico. Cette force de caractère se déploie aussi au service de l'Église, inébranlablement fidèle au pape, qu'il croit légitime, et il fait tout pour obtenir le rétablissement de l'unité. Donc, le bienheureux Jean de Medici, ce cardinal, il est devenu cardinal après avoir accompli les réformes des couvents dominicains, ben, il craint pas de s'opposer à des opinions reçues. Un réformateur ne craint pas. Un réformateur fonce au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Évangile, au nom d'une sainte tradition vivante, pas une tradition morte. Il ne s'agit pas de ressusciter des choses mortes. Il s'agit de faire revivre dans un monde contemporain, avec des adaptations nouvelles, les grandes valeurs du passé. Il instaure, par exemple, une critique du miracle qui anticipe sur les démythisations actuelles. Le révolutionnaire dans ce sens-là. Faut pas croire tout le temps qu'il y a des miracles partout. Faut être prudent. Il attaque vigoureusement ceux qui font la guerre aussi. Il est courageux à l'époque. Il prend la défense des animaux. Ça plairait à bien des gens aujourd'hui. C'est prendre la défense des animaux qu'on tue ou qu'on fait souffrir sans nécessité. C'est donc un réformateur moderne pour son époque en particulier. Son influence sur le milieu laïque chrétien est considérable d'ailleurs. Par ses sermons, par ses contacts personnels aussi. Il avait une grande qualité dans ses contacts personnels. Et ses lettres aussi sont vraiment sympathiques. En particulier pour résoudre les questions sociales en exigeant beaucoup de la classe riche. Il interpelle les gens riches. Il réclame, par exemple, avec les autres réformateurs de son époque, là, que chaque année, une part importante des revenus, ce qu'il appelle la part de Dieu, soit donné sous forme d'œuvres de bienfaisance. J'ai jamais compris comment des gens qui font 80 000 ou 100 000 $ par année sont pas capables d'en donner 10 000 ou 15 000. Grand Dieu! Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de nos chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des lettres magnifiques adressées à un riche marchand, qui s'appelait le Datini. Il écrit aussi au doge, à son entourage, le doge de Venise. C'est surprenant. Il se montre très humain, délicat aussi, attentif aux soucis puis aux besoins des autres. Et il est désintéressé à l'égard de lui-même. C'est un homme qui vit pauvrement, très très pauvrement. Ça transparaît à travers les événements mentionnés dans ses lettres. Ainsi, à propos de la mort de certaines personnes qu'il aimait beaucoup. Il y a toute une lettre extraordinaire au sujet d'un ciboire qui a été renversé dans le cœur. Et le frère Domenici tranquillise les sœurs à ce sujet. Il prétend que le coup de vent qui est arrivé et qui a fait renverser le ciboire, c'est que le Christ a voulu se répandre parmi ses sœurs, ses épouses. Il leur dit des choses tellement extraordinaires. Faudrait que je consacre toute une émission à cette longue lettre. Il écrit une longue lettre pacifiante aussi au moment de son bannissement. Une belle lettre, ça. Sa charge de vicaire lui a été retirée, alors il dit qu'il faut se réjouir de cette humiliation. Il n'a pas de prétention. Sa nomination de cardinal, dit-il, ne doit pas être considérée comme un honneur. Parce que pour lui, elle survient au moment où la barque de Pierre, comme on dit quand on parle de l'Église, est en grand péril. Alors, il s'agit d'accepter quoi? La couronne d'épines. Quand on est nommé cardinal, on accepte quoi? Une couronne d'épines, dit-il. Il interpelle les sœurs, il démasque vigoureusement leurs défauts. Les vaines espérances, l'impatience naturelle, l'amour terrestre, tout ça. Mais il leur ménage des encouragements fraternels. Il y a une touchante lettre à sa mère aussi, paraît-il, que je n'ai pas pu retrouver. Mais dans une lettre où il parle justement de ce ciboire renversé, il dit « Vous savez que je devais prêcher à Vêpres. Vous parlez de l'immense amour que montre Jésus en se donnant à ses fidèles dans un si grand sacrement de l'Eucharistie. Car après vous avoir communiqué ses œuvres par la création, Puis ses dons en accordant toute chose à l'homme, il avait enfin donné sa propre personne, parce que l'amour ne garde rien à lui, mais livre tout. Tel était le sujet du sermon. Il donne tout, il renverse même par un coup de vent le ciboire pour se donner à vous en se répandant là où vous êtes. Il dit à un moment donné, « Oh, la joyeuse vie, Dieu seul, seul Dieu, ô doux Dieu, ne désirez rien d'autre. Ô pèlerinage plein de repos, citoyen du ciel, quelle fête! Quelle fête c'est d'attendre la mort pour retourner à la demeure de l'éternel repos, mort sans douleur, qui ne laisse parents au monde ni terrestres amis, ni créature aucune, puisque rien n'est aimé que Dieu. » Ça, il parle à des moniales qui sont cloîtrées. Mais quand on vieillit, qu'on vieillit, il arrive un jour où il n'y a plus personne, on est tout seul. Hein? Et c'est comme ça qu'on est seul avec Dieu. Il dit aussi dans une lettre, « Tu crains, ô âme folle, d'aller au Christ aimé, et tu te figures le désiré de tout ton cœur. » Il parle de la vocation. Hein? « Où serais-tu si aveuglé que tu crois trouver vie meilleure que celle du Christ? Ou veille pâture plus délicieuse que le très doux Christ? Si tu prends ce chemin, tu ne sauras même pas qu'il y a douleur au monde. Or, tu peux partout le suivre. C'est ce chemin, ô chère fille, que je désire. Et m'y engageant, faire rencontre avec vous. » Que de belles lettres, que de belles lettres. Je ne sais pas si... Oui, j'en avais noté aussi un passage. Il dit, l'homme est composé de deux natures, du contraire, l'âme et le corps. Je vous avais lu ça tout à l'heure. Ben, l'âme est une créature spirituelle de tant de noblesse et excellence qu'en cette vie, discours humain ne peut expliquer. Puis là, il parle de l'âme. Hein? Toute la beauté de ces mille couleurs variées dans les oiseaux, les fleurs, les feuilles, toute chose, toute la splendeur du soleil, de la lune, des étoiles, du feu, toutes les suavités de la douce mélodie, toute la fragrance des parfums bien plaisants, et tout ce que tu peux rêver de plus précieux n'est que fange, ténèbres, douleur et amertume au regard de cette créature de Dieu qui est l'âme très noble. Que dire? Elle est si haute, si précieuse et grande que la glorieuse, souveraine, infinie divinité l'a faite digne d'elle-même. Car l'âme, en rien jamais ne se repose, de rien jamais n'est contente, si ce n'est de l'incompréhensible divinité, dans la foi d'abord, puis dans l'immédiate vision. C'est cette vision à laquelle nous sommes appelés. Puis il dit à un moment donné, dans une autre lettre, « Demeurez ferme dans la tristesse, résistez, ne fuyez pas, car par après, Dieu envoie de grands bienfaits. » Ah, c'est tellement beau. Il écrit de très, très belles choses. Le frère Jean Dominici, dominicain, responsable de la réforme des dominicains dans toute l'Italie, un peu autour, devenu cardinal et béatifié, le bienheureux Jean Dominici.